Ou à Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Abdourahman Dia en direct de Washington pour cette édition de 19h30 temps universel. Nous sommes lundi 19 mars 2018 au sommaire. Ouverture à N'Djamena d'un forum national sur la réforme des institutions. Le Nigeria ne signera pas l'accord de libre-échange de l'Union africaine. Le président Buhari veut d'abord consulter les syndicats.
Les jeunes industries nigériennes ne sont pas protégées. Voilà le problème. En ce sens que vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, où les Américains essaient de protéger leurs industries.
Importants dégâts matériels après l'incendie du plus grand marché de Conakry. Et le gouvernement sud-africain est condamné à payer près de 90 000 euros aux familles de malades mentaux morts de mauvais traitements. Et puis, sans surprise, la réélection du président russe Vladimir Poutine pour un quatrième mandat. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout de suite, le journal. En Guinée, l'heure est à l'évaluation des pertes après le vaste incendie qui a ravagé le plus grand marché du pays ce week-end. Plusieurs centaines de boutiques ont été détruites par les flammes, faisant d'importants dégâts matériels. Selon le gouvernement guinéen, un problème avec le système électrique serait à l'origine. On fait le point avec Zakaria Kamara.
C'est aux environs de 23 heures, selon la police, que les flammes alertent les voisins du marché Madina, d'habitude vide et calme la nuit. Le feu passe d'une boutique à l'autre et jusqu'à dimanche midi, l'incendie n'était pas complètement maîtrisé, malgré la présence d'au moins 11 camions à eau. Informé, le président Alpha Condé se rend sur les lieux dimanche et fait remarquer le désordre dans le marché. Même son de cloche chez l'administrateur du marché qui, lui, a parlé d'un court-circuit qui aurait provoqué l'incendie. Le bilan est lourd. Sur une surface de 1500 m², plus de 300 boutiques, au moins 20 étals et 62 ateliers de couture sont réduits en cendres. Les commerçants témoignent avoir perdu d'importantes sommes d'argent et des marchandises. Une enquête est en cours pour déterminer la cause exacte de l'incendie selon le gouvernement guinéen, mais la police crédite la thèse d'un court-circuit. Il y a 2 ans, un incendie de la même nature et d'origine électrique avait fait d'importants dégâts matériels dans le même marché. Conakry, Zakaria Kamara, VOA Afrique.
Toujours en Guinée, les cours ont repris dans les écoles après plus d'un mois de grève des enseignants et de manifestations accompagnées de violences. Des élèves en uniforme ont répondu présents dans une école publique de Koloma, dans la banlieue de Conakry. Après plus d'un mois de grève, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a levé son mot d'ordre le 14 mars après avoir obtenu gain de cause. Les enseignants sénégalais, eux, observent des grèves à répétition depuis 4 mois. Ils ont entamé un nouveau débrayage de 48 heures pour réclamer une hausse de l'indemnité de logement et la satisfaction de revendications liées à leur carrière. Le point avec Idriss Fall.
Les 6 principaux syndicats de l'éducation ont appelé à un nouveau débrayage aujourd'hui et demain, suivi d'une grève totale le mercredi et une manifestation en avril. Les syndicats réclament une augmentation de l'indemnité de logement, l'intégration dans la fonction publique des enseignants contractuels et le paiement rétroactif des sommes dues à l'avancement en grade de certains agents. Les négociations avec le gouvernement ont achoppé vendredi sur l'indemnité de logement. Les autorités ont proposé une augmentation annuelle et progressive sur 3 à 4 ans et permettant de passer de 60 000 à 75 000 francs CFA par mois. Les enseignants réclament un alignement sur le statut d'autres fonctionnaires qui perçoivent une indemnité de logement égale ou supérieure à 100 000 francs CFA. Depuis novembre, des grèves perlées, débrayages, des arrêts de travail paralysent les secteurs primaires et secondaires de l'éducation. Des élèves mécontents ont même manifesté à Dakar et dans d'autres villes pour réclamer la reprise des cours.
Le Canada va déployer une force d'appui aérienne avec des hélicoptères et des casques bleus au Mali, ce qu'a annoncé ce lundi le ministre canadien de la Défense. La date du déploiement sera fixée après consultation avec l'ONU, a dit le ministre, sans préciser le nombre de militaires qui seront mobilisés. Le contingent sera composé d'une part importante de femmes, a assuré la ministre des Affaires étrangères. Après le président nigérien Muhammadu Buhari, l'Ougandais Yoweri Museveni a lui aussi annulé à la dernière minute son voyage sur Kigali, où se tient un sommet de l'Union africaine à partir de mercredi. Les raisons de l'annulation de ce voyage ne sont pas encore connues. Le président nigérien Buhari, lui, a fait savoir que son pays n'allait plus paraffer un accord de libre-échange dont la signature est prévue lors de ce sommet de Kigali. Les syndicats et autres partenaires ont souhaité être associés aux discussions avant que le Nigeria ne signe le document. Nous y reviendrons dans la partie magazine. En Afrique du Sud, le gouvernement a été condamné à verser 90 000 euros à chacune des familles des malades mentaux morts de mauvais traitements ou faute de soins. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le juge Dick Gang Mousseneke, président du tribunal arbitral, a dénoncé, je cite, « un carnage, une terrible histoire de mort et de torture, un manque total de dignité envers les victimes ». Le scandale a éclaté fin 2016 lorsqu'un rapport officiel a révélé que 144 malades mentaux sont morts après avoir été transférés d'un hôpital privé de Johannesburg vers des ONG qui n'étaient pas habilitées à les recevoir. Les autorités provinciales ont expliqué avoir ordonné le déplacement de plus de 1700 malades pour des raisons budgétaires. Le tribunal arbitral, saisi du dossier, a jugé cette décision irrationnelle et inconstitutionnelle. Ces derniers mois, les familles des victimes ont décrit les détails des maltraitances infligées à leurs proches. Un animal n'aurait pas été traité comme ça, a déclaré Sandra Devilliers, sœur d'une victime. Convoqués à la barre, les responsables provinciaux de la santé se sont confondus en excuses, se renvoyant la responsabilité du désastre. En plus de cette procédure civile, la police a ouvert une enquête criminelle qui pourrait aboutir à un procès pénal contre plusieurs responsables.
Les autorités zimbabwéennes ont publié la liste de ceux qui ont refusé de rapatrier les capitaux sortis illégalement du pays pendant le règne de l'ex-président Robert Mugabe. Il s'agit notamment de compagnies minières et d'entrepreneurs chinois. Ce lundi, le président a indiqué qu'au total, 1,4 milliard de dollars a quitté illégalement le pays. Seuls 591 millions ont été rapatriés dans le cadre de l'amnistie offerte aux fraudeurs, a-t-il ajouté. 36 djihadistes et 4 soldats ont été tués au cours des 5 derniers jours lors d'opérations menées dans le nord et le centre du Sinaï en Égypte. C'est ce qu'a annoncé l'armée égyptienne ce lundi. La région du Sinaï fait face à des attaques récurrentes d'éléments armés affiliés au groupe État islamique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, la police a ouvert une enquête sur une nouvelle bombe qui a fait 2 blessés à Austin, portant à 4 le nombre d'explosions en un mois dans la capitale du Texas. Cette nouvelle explosion est survenue hier soir et juste avant, la police avait lancé un appel à l'auteur ou aux auteurs des précédentes attaques à se rendre. Ces attaques ont fait 2 morts et 2 blessés. Au lendemain d'une victoire écrasante et sans surprise, Vladimir Poutine reçoit des messages de félicitations de plusieurs pays. Au même moment, l'opposition dénonce des irrégularités. Morgan Guerrieux.
Avec plus de 58 millions de voix, Vladimir Poutine est arrivé très loin devant ses adversaires avec une participation supérieure à la présidentielle de 2012. Un quatrième mandat qui sera son dernier selon la Constitution. Les alliés traditionnels de la Russie, tels que la Chine, l'Iran ou le Venezuela, ont félicité M. Poutine pour sa réélection. L'opposition et des ONG russes ont fait état de nombreuses irrégularités, bourrage d'urnes et électeurs emmenés par autocar sous pression de leurs employeurs. Les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe déplorent un manque de véritable concurrence et des irrégularités pour accroître la participation. L'OSCE dénonce aussi un environnement politique et judiciaire marqué par le harcèlement constant des voix critiques, pointant du doigt les restrictions aux libertés fondamentales de réunion, d'association et d'expression, et l'absence de critiques dans la couverture de la campagne du président Poutine dans la plupart des médias russes.
Moscou réclame des preuves ou des excuses du gouvernement britannique qu'il accuse d'être responsable de l'empoisonnement d'un ex-espion russe au Royaume-Uni. Tout juste réélu pour un 4e mandat avec un score écrasant, le président russe Vladimir Poutine avait vivement rejeté toute responsabilité, parlant de grand n'importe quoi. L'armée israélienne a décidé de réduire d'un tiers la peine d'un soldat condamné à 18 mois de prison pour avoir achevé un assaillant palestinien blessé en Cisjordanie occupée. Elor Azaria, dont le procès a déchaîné les passions, devrait sortir de prison le 10 mai. Il avait été filmé le 24 mars 2016 alors qu'il tirait une balle dans la tête d'Abdel Fattah al-Sharif à Hébron. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, c'est dans la Minute Éco avec Eric Manelkiza.
Le Nigeria se retire de l'accord de libre-échange de l'Union africaine. Le gouvernement veut consulter au préalable certains actionnaires qui n'adhèrent pas aux conditions de ce traité sur la zone de libre-échange continentale. Le Nigeria Labour Congress, l'un des plus grands syndicats, craint l'ouverture du marché dans le pays et réclame à participer dans les négociations. Le Nigeria constitue un marché gigantesque avec quelques 190 millions de consommateurs. Au-delà des 54 pays africains, ce traité vise aussi à regrouper à terme les zones régionales commerciales. Le président Muhammadu Buhari a annulé son voyage à Kigali, qui doit abriter mercredi un sommet extraordinaire de l'Union africaine pour signer le traité. En Mauritanie, la production dans la principale mine de fer à Zouerat, dans le nord du pays, a repris. Un conflit syndical était à l'origine de l'arrêt des activités. La Mauritanie produit chaque année environ 12 millions de tonnes et vend 80% à la Chine, le reste à des pays européens. La Société nationale industrielle et minière emploie plus de 6 000 salariés et contribue à près de 15% du produit intérieur brut mauritanien. Elle est le deuxième employeur du pays après l'État. Ouverture aujourd'hui à Buenos Aires, en Argentine, de la réunion du G20 Finance. Elle se tient dans un contexte de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Dans 4 jours, Washington mettra en vigueur des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium. Pour le G20, une solution collective demeure la meilleure option.
Présent la page des sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
On connaît les 16 équipes qualifiées pour la phase de groupe en Ligue africaine des champions.
Et le Williamsville Athletic Club aura sans doute des regrets après s'être incliné lourdement chez le champion en titre, le Wydad de Casablanca, 7-2 lors du match aller. Les Ivoiriens se sont bien comportés au match retour en battant les Marocains 2-0. C'est insuffisant bien évidemment sur l'ensemble des deux matchs. Un but inscrit par Alice Badri d'une frappe surpuissante a permis à l'Espérance de Tunis, dominatrice, de faire le strict nécessaire pour se qualifier face aux Kenyans de Gormaya. La SEC Abidjan éliminée chez elle au bénéfice du but inscrit à l'extérieur par les Zambiens du Zesco United. On rappelle que les deux représentants ivoiriens joueront le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Quant aux 6 clubs du Maghreb engagés dans la compétition, ils se sont qualifiés pour les phases de poule. Qualification notamment de l'Étoile du Sahel, de Difa El Jadida, de l'Entente Sportive de Sétif ou encore du Mouloudia Club d'Alger. Le Mouloudia qui s'est imposé face au MFM du Nigeria 6-0. Les Corbeaux de Mazembe ont été battus 3-0 à domicile par l'Udesongo, mais sont qualifiés pour la phase de poule grâce à leur victoire 4-0 à l'aller. Qualification également de Al Ahly et du Oroya à Conakry. À Omdurman, Al Hilal a été surpris par l'AS Togoport qui rejoint les poules pour la première fois de son histoire. C'est une première également pour le foot togolais. Battu 2-0 à l'aller, au Togo, les Soudanais se sont imposés 3-1 à domicile, mais ils prennent la porte évidemment au nombre de buts marqués à l'extérieur. Contre-performance pour le club congolais de l'AS Vita Club, finaliste de l'édition 2014, les Dauphins Noirs ne verront pas la phase de poule cette année. Battu 1-0 à l'aller, le club congolais a été tenu en échec au retour à Kinshasa par le Difa El Jadida. 2-2, ce match nul est synonyme d'élimination.
Et NBA, championnat de basket nord-américain.
L'équipe en forme du moment en NBA, c'est Portland qui a décroché sa 13e victoire de suite face aux Clippers, 122-109, tandis que Toronto a vu sa série de 11 succès consécutifs prendre fin face à Oklahoma City, une défaite 125-132. Boston continue de gérer son effectif en vue des playoffs et s'est incliné lourdement à la Nouvelle-Orléans, 89-108. Enfin, Houston a été chahuté par Minnesota, mais s'est imposé 129-120.
Merci Nicolas.
le monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a procédé aujourd'hui à l'ouverture d'un forum pour la révision constitutionnelle. Environ 800 participants doivent adopter le nouveau projet à la fin des travaux le 27 mars. Il introduit notamment la limite du mandat présidentiel qui va passer à 7 ans et la réforme profonde de la justice, entre autres propositions. Pour analyse, Eric Manizakiza a joint à N'Djamena, un enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena et également membre de l'opposition, le docteur Gozo Joab.
Je me demande à quoi ça sert de réviser constamment une constitution. Nous allons réviser la constitution au Tchad combien de fois et pourquoi? Une constitution, je crois que ça doit se faire une bonne fois. Et pour ça, il faut prendre les meilleurs du pays, qui prennent les meilleurs des Tchadiens et qui mettent sur place des règles valables pour tout le monde. On ne touche pas à la constitution comme on touche à n'importe quelle copie quand même. Alors rien que cette permanence de révision de la constitution, pour moi, ça me laisse parfaitement froid plutôt. Bon, maintenant, dans le pays, il y a déjà un grand forum en 1993, c'est-à-dire la Conférence nationale souveraine. Des résolutions importantes avaient été prises. Qu'est-ce que le gouvernement a fait de ces résolutions-là? Simplement, ça marche pied. Alors, pour ma part, je ne suis pas étonné outre mesure que les résolutions de ce forum-là vont suivre également le même chemin que la conférence des résolutions de la Conférence nationale souveraine. De sorte que moi, je n'y attends pas grand-chose. Et rien n'en sortira, rien. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait de partis politiques qui ont une partie ça.
Le président Déby, il a dit qu'il souhaitait un régime parlementaire.
Mais au niveau de la gouvernance du pays, vous pouvez avoir n'importe quel régime que vous voulez, hein, monarchie, anarchie, etc., tout ce que vous voulez. Mais le contenu, ce qui se fait dans le pays, pour les citoyens, c'est ça ce qui est important. Ce n'est pas le nom du régime qui est important, hein, à mes yeux. Donc ce qui est essentiel, c'est de prendre en compte l'intérêt du plus grand nombre. Les gens ont faim, les gens ont soif, mais ce sont ces choses-là dont il faut s'occuper en priorité, je crois. Hein. Ce n'est pas le nom du régime. Pour moi, ce n'est qu'un pis-aller, ça. Hein.
Et le président Déby a annoncé l'intention de changer la charte des partis politiques parce qu'il trouve que plus de 200 partis politiques, c'est trop.
Oui, plus de 200 partis, hein, ça fait le fractionnement du pays. Hein. Il y a des partis politiques qui ne connaissent que les membres de leur famille, les partis politiques qui. Hein. Ici au Tchad, on connaît cette blessure-là. Si vous voulez, l'exemple le plus adéquat, à mon avis, c'est l'exemple de Senghor dans les années 70 ou 80. Il avait instauré pour le pays trois partis politiques uniquement. Bon, évidemment, il a connu quelques faits, il a connu, etc. Il y a eu des revers aussi, mais ça permet quand même au pays de se ressouder autour de trois grands partis politiques. Et bon, ben, si on peut arriver ici au Tchad de trois grands politiques, ce serait un progrès aussi, hein, à mon avis.
C'était le docteur Gozo Joab, joint à N'Djamena.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
C'est le 25 mars que 70 nouveaux sénateurs seront élus au Cameroun pour un mandat de 5 ans. La campagne électorale d'ores et déjà débutée et 9 partis politiques sont en lice. Contrairement aux élections de 2013, le parti au pouvoir est challengé cette fois dans toutes les régions du pays. Le point avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jultap.
Depuis le lancement de la campagne électorale le 10 mars dernier, le RDPC, parti au pouvoir, ne cesse de mobiliser ses grands électeurs, comme dans le département du Nyon-Esso, à une trentaine de kilomètres de Yaoundé, où le secrétaire général adjoint du RDPC, Grégoire Obona, a tenu une réunion pour dissiper quelques malentendus. Joseph Armaté Amougou, coordonnateur départemental du RDPC dans le Nyon-Esso.
Il existe ce qu'on appelle la discipline du parti. Une décision qui est déjà prise doit être respectée par toutes les militantes et tous les militants du RDPC. Il n'y a pas de litige parce que l'Union Esso a une personne dans la liste présentée par le centre.
Dans la région du centre, une candidate de l'UNDP, un parti de l'opposition, est tête des listes pour les élections sénatoriales. En quête des voix des grands électeurs, Marie-Jeanne Abega dit vouloir briser un mythe politique cette année.
Nous en avons marre de ces pratiques où on donne le mot d'ordre aux conseillers municipaux, on leur impose un candidat. Nous sommes en 2018, les choses doivent changer et positivement. Notre mission est d'être élus par les grands électeurs. Ils sont certes les conseillers municipaux d'un parti, mais c'est des êtres humains.
Certaines formations politiques de l'opposition au Cameroun ont justement boycotté les élections sénatoriales, estimant que le collège électoral manquait de légitimité. Durant cette campagne électorale, les médias camerounais sont sous restriction, notamment sur la question de la sécession au centre de la crise anglophone. Peter Essoka, président du Conseil national de la communication.
Tout appareil direct ou indirect à la sécession est prohibé. Tout message de soutien aux sécessionnistes, au sécessionnisme doit être censuré. Les cas de dérive, de directives ci-dessus données pourront être sanctionnés.
Mais la polémique a plus enflé sur la volonté du Conseil national de la communication de suspendre durant cette campagne électorale toutes les émissions politiques sur les médias camerounais. Éric Boniface Tchouake, chef de chaîne de Radio Siantou, principale antenne privée à Yaoundé.
On interdit même les débats, ce qui est une incongruité parce qu'en démocratie, on voit ailleurs, c'est même la période où les débats sont organisés en différents candidats. Vous prenez les émissions qui existent dans les principaux médias. Ces noms sont déjà connus. Vous allez donner un nouveau nom maintenant. Le temps que le public s'adapte pour la circonstance, parfois ce n'est pas toujours intéressant.
Aux dernières nouvelles, la mesure pourrait être corrigée par le ministère de la Communication, permettant ainsi aux médias du secteur privé de garder leur indépendance de ton. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Dans les régions du nord du Mali, plusieurs écoles restent encore fermées à cause de l'insécurité. Les enseignants abandonnaient leurs postes pour rejoindre les grandes villes. Conséquence, des centaines d'enfants ne vont plus à l'école dans cette partie du pays où l'État est toujours absent. Suivons la première partie du reportage de notre correspondant Gao, Boubacar Touré.
Il n'y a pas que l'insécurité qui empêche la reprise des cours dans toutes les écoles fermées, à en croire les responsables en charge de l'éducation dans la région. Okachata Maïga, directeur adjoint du centre d'animation pédagogique CAP de Gao.
Au niveau de cette société, c'est surtout dans les communes rurales. Et en plus de l'insécurité, nous avons des problèmes qui sont propres aux zones. Nous avons des populations maintenant qui se déplacent avec leurs troupeaux d'animaux en fonction maintenant des sources d'eau. Donc le manque d'eau aussi constitue vraiment un véritable. Les cantines, surtout les cantines. Avec la crise sans cantines, il serait très difficile maintenant de rouvrir maintenant les écoles.
L'absence de l'État et certaines pratiques dans le système éducatif malien favorisent la fermeture des écoles. Alousseini Dorinche, président coordinateur des comités de gestion scolaire de Gao.
Les préfets sont à Gao, les préfets sont à Bamako. Nous avons des problèmes, on te braque, on te retire ta voiture. Tu ne donnes pas, on tire sur toi. À Gao, les financiers ne sont pas là. Gao, nous sommes à 3 mois de retard de salaire. C'est des problèmes. Effectivement, c'est les collectivités qui gèrent les écoles. Une décision qui sort pour des mutations à partir de Bamako, tout est réglé, calé. Ceux qui doivent rester à Gao vont rester à Gao. Ceux qui vont rester à Bamako sont à Bamako.
Les autorités scolaires et les partenaires de l'école sont à pied d'œuvre. Des tables de concertation organisées ça et là ont porté leurs fruits dans certains cas. Sadou Abdou, directeur adjoint de l'Académie d'enseignement de Gao.
Nous avons organisé des tables de concertation qui ont été réalisé avec l'aide des préfets, avec l'aide des collectivités à travers les maires chargés de l'éducation, nos partenaires, les syndicats, AMU, CGS, APU, ONG. Cela nous a permis de faire la réouverture de 14 écoles du Cap de Gao, 2 écoles pour le Cap de Bourem.
Seul le retour de l'administration et des collectivités peut favoriser la reprise des écoles dans le Nord. Abdelaziz Meïga, secrétaire général du syndicat des enseignants fonctionnaires des collectivités.
Il faudrait que l'État sécurise les écoles pour que vraiment l'école puisse marcher.
En tout cas, malgré les nombreux efforts, 140 écoles restent toujours fermées sur 576 possibles et la région de Menaka vient en tête avec 61 écoles fermées sur 81 possibles. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, le Top 10 American Music, le nouveau groupe de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 5h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi à la mise en onde de Joselle Morissin, à la console Voitex Zorniak, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Rien n'est plus important pour l'avenir de l'Afrique subsaharienne qu'une source d'énergie abordable et fiable sans laquelle aucune entreprise ne peut réussir. L'énergie électrique est un ingrédient crucial de notre réponse à l'un des plus importants défis de développement de notre temps, le déplacement des familles et des communautés à travers le monde, a déclaré l'administrateur de l'USAID, Mark Green, au 4e sommet annuel Powering Africa. La connectivité permet aux déplacés de rester en contact avec leurs familles et amis, de remettre de l'ordre dans leur vie avant de chercher à s'installer dans un nouvel endroit. Toutefois, en Afrique subsaharienne, des millions de déplacés vivent pour une durée indéterminée dans des camps sans électricité. Et c'est ici que Power Africa intervient. En janvier, l'USAID a annoncé un nouveau partenariat entre Power Africa et Mastercard qui vise à connecter des millions de déplacés d'Afrique au réseau électrique et leur permettre d'accéder aux outils digitaux et à l'Internet. À travers Power Africa, nous avons aidé à mobiliser plus de 20 partenaires allant de Mastercard à Mercy Corp, en passant par Energy Peace Partners. Ensemble, nous œuvrons pour électrifier et connecter 5 camps des réfugiés, 3 en Ouganda et 2 au Kenya, a expliqué l'administrateur Green de l'USAID. Power Africa est réellement un partenariat réussi entre le gouvernement et le secteur privé. Power Africa marche, a dit l'administrateur Green. L'initiative a aidé 58 millions de personnes à accéder à l'électricité grâce au mécanisme du marché et de l'entrepreneuriat. Elle a impliqué plus de 140 partenaires du secteur privé et mis à contribution les autorités de régulation pour faciliter des transactions, se chiffrant à 14,5 milliards de dollars. Côté gouvernemental, l'USAID fournit l'assistance technique et des garanties de prêts pour faciliter les investissements. Le Millennium Challenge Corporation prête main forte aux réformes du secteur énergétique. Le département d'État œuvre, de son côté, au renforcement de la gouvernance dans le domaine de l'énergie, tandis que l'Agence pour les investissements privés à l'étranger finance les infrastructures énergétiques à travers le continent. Cela devrait être le ton de l'Afrique, a déclaré l'administrateur Green de l'USAID. Le continent africain dispose d'un potentiel énorme, ses ressources, ses terres agricoles et ses pâturages, mais surtout l'impressionnant esprit de résilience et de joie qui habite un si grand nombre des habitants. Comme l'a dit le président Trump l'automne dernier en marche de l'Assemblée générale des Nations unies, en ce qui concerne l'Afrique, les perspectives sont brillantes.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue.